C'est une joie pour moi d'être présent parmi vous, et une lourde responsabilité aussi de pouvoir ouvrir la parole ensemble et de pouvoir partager. Alors, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole dans le livre des Actes. Le livre des Actes au chapitre 4. On va lire peut-être un long passage, mais ô combien intéressant. Chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1er. Acte 4, verset 1er. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandement des gardes du temple et les sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et, comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à environ 5 000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre, Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent par quelle puissance ou en quel nom « avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Et ils reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux en disant « Que faire à ces hommes ? » En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident, c'est clair pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, « défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu ? Jugez-en vous-même. Et quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir, parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, Ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Quel texte merveilleux. On voit Pierre et Jean, on n'a pas lu le passage avant parce que ça aurait été un peu trop long, mais on voit juste avant que Pierre et Jean, par la grâce de Dieu, par la puissance du nom de Jésus, vont accomplir un miracle dans la vie d'un homme. Un homme était malade et il va être guéri, tout simplement guéri. Et on va voir que les anciens, tous les responsables religieux de l'époque vont être là, un peu jaloux de ce qui venait de se passer, et ils vont vouloir arrêter Pierre et Jean. Ils vont vouloir les condamner pour ce qu'ils ont fait, mais le problème c'est que les preuves étaient évidentes que cet homme avait été guéri et que la puissance de Dieu avait agi. Et donc on voit Pierre et Jean qui sont là et après avoir été menacés par les responsables religieux de l'époque, vont retourner vers les leurs, comme la parole nous le dit, et là ils vont se mettre tous ensemble et ils vont se mettre à prier. Ils vont se mettre à prier une prière qu'ils vont faire monter vers Dieu, et la conclusion de ce passage, c'est qu'il nous dit le verset 31, « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Et ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous sur ce passage, le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais par deux fois, il est dit, ce passage-là, et le verset un peu avant, au verset 8, il est dit « Alors Pierre rempli du Saint-Esprit ». Et quand j'ai relu ce passage, je me suis un peu interrogé et je me suis dit « Mais n'est-ce pas un peu bizarre ?» À deux reprises, il est dit qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, et pourtant, si je ne me rappelle bien, deux chapitres avant ou trois chapitres avant, il y a l'expérience de la Pentecôte. Donc Pierre, Jean et tous les disciples avaient déjà été baptisés du Saint-Esprit à ce moment-là. Et pourtant, deux fois, il nous est mentionné dans ce court passage que Pierre et Jean et les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Alors, ce matin, j'aimerais un peu m'arrêter sur ça. Sur peut-être les différentes actions du Saint-Esprit et des fois les petites erreurs qu'on peut faire quand on parle de la personne du Saint-Esprit. La première chose, j'aimerais voir avec vous la première action que le Saint-Esprit fait dans chacune de nos vies. Ce matin, je pourrais essayer de vous prêcher et de vous dire que si vous ne croyez pas en Dieu, il faut vous repentir et vous convertir. Il faut changer votre vie. Mes propres mots ne serviraient à rien. Parce que la parole de Dieu nous le dit clairement dans l'évangile de Jean, que le rôle du Saint-Esprit, il a été envoyé pour convaincre. On va le lire ensemble. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 16. Il nous est dit cela. Jésus nous enseigne sur la personne du Saint-Esprit. Il nous est dit au verset 5, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde a été jugé. » Et je voulais m'arrêter un peu sur ce verset pour comprendre la première action du Saint-Esprit que le Saint-Esprit fait dans nos vies. C'est que tous les hommes, quels qu'ils soient, est confronté au péché. Mais la seule façon de comprendre cela, que nos vies sont sales, que nos vies ne sont pas à la gloire de Dieu, que nos vies sont souillées par ce péché, c'est que le Saint-Esprit nous le révèle. Paul a pu dire à un moment, dans une des églises qu'il est passé, il a dit « C'est pas avec des discours de sagesse que j'ai essayé de vous convaincre, ou par mon intelligence, mais c'est seulement par la puissance de Dieu. Parce que ce n'est pas un homme, ce n'est pas un discoureur, ce n'est pas un bon prédicateur qui convainc de péché, de jugement ou de justice, mais c'est le Saint-Esprit. Et la première œuvre que le Saint-Esprit désire faire dans nos cœurs, c'est de pouvoir nous montrer, de pouvoir mettre à la lumière de la parole de Dieu que nos vies sans Dieu sont des vies perdues. Que nos vies ont cette nécessité d'être renouvelées, d'être régénérées par la puissance de Dieu. D'accomplir, comme il a été dit par Jésus, cette nouvelle naissance. Avoir une vie qui change totalement. Mais ça, seulement le Saint-Esprit peut faire ça en nous. Et ça, c'est la première étape, c'est d'accepter que le Saint-Esprit puisse travailler nos cœurs. Parce que le Saint-Esprit, même s'il est totalement Dieu, et comme les autres personnes de la Trinité, ne nous oublie jamais. Le Saint-Esprit nous montre les choses. Il nous montre que sans Dieu, nous ne sommes rien. Il nous montre que notre vie sans Dieu ne sert à rien et qu'elle nous conduit à la mort. Mais jamais il nous obligera. Dieu nous a laissé ce libre arbitre de pouvoir choisir ou non, de pouvoir accepter la grâce de Dieu ou de la refuser. Mais quand on accepte que le Saint-Esprit parle à nos cœurs et qu'on accepte ce qu'il nous dit, alors oui, nous sommes convaincus de péché. Nous réalisons que notre vie est sale. Alors le Saint-Esprit nous fait comprendre qu'il y a une solution, la croix de Jésus-Christ. La justice de Dieu a été accomplie à la croix. Le péché a été condamné, jugé définitivement. Et à chaque fois qu'on se présente devant cette croix et qu'on demande pardon à Jésus-Christ pour tout ce que nous avons fait, alors la justice de Dieu s'accomplit sur nos vies et nous sommes pardonnés. Et il y a un autre élément, c'est que il y a ce jugement. Il nous est dit, parce que le prince de ce monde a été jugé. Le Saint-Esprit nous fait aussi comprendre que on a un ennemi. Un ennemi qu'il veut justement, lui, nous perdre. Qui, au contraire, à l'inverse de Dieu, qui désire nous donner cette vie, qui désire nous communiquer tout l'amour qu'il a pour nous. L'ennemi de nos âmes, lui, au contraire, veut nous perdre. Et il nous fait comprendre tout cela, même si on ne comprend pas tout, peut-être au début, mais on comprend qu'il y a quelque chose qui est mal et quelque chose qui est bien. Et on choisit d'avancer avec lui. Ça, c'est la première étape que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Et je sais que pour la plupart d'entre nous, nous avons expérimenté cela. Cela se traduit bien généralement par cet engagement dans les eaux du baptême. Mais ce matin, j'aimerais aller un peu plus loin avec vous. Parce que ça serait bien dommage si on s'arrêtait seulement à cette action-là du Saint-Esprit dans nos vies. Je crois qu'il y a bien plus à en tirer quand on voit tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu et combien le Saint-Esprit agissait puissamment au travers des apôtres et notamment au travers du texte que nous avons lu. Il y a cette deuxième étape, le baptême dans le Saint-Esprit. Cette deuxième étape, on pourrait relire la première fois dans les Actes où il nous est dit que acte 2, il nous est dit que les disciples avaient obéi à la dernière parole que Jésus leur avait donnée, de savoir qu'ils devaient rester à Jérusalem pour recevoir cette promesse, la promesse du Saint-Esprit. Et il nous est dit au verset 1 du chapitre 2, « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à en parler à d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » On voit dans la parole de Dieu la première fois où l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu. Cette plénitude de l'Esprit où cette manifestation particulière de l'Esprit nous remplit. Je l'ai déjà dit un peu, mais le Saint-Esprit est une des personnes de la Trinité le Saint-Esprit est totalement Dieu comme Jésus est totalement Dieu, comme le Père est totalement Dieu. Et ce baptême de l'Esprit, c'est cette expérience de la présence de Dieu dans nos vies, d'une façon particulière. Et et on voit que le Seigneur Jésus désire cela pour nos vies, le baptême dans le Saint-Esprit. Mais chose étonnante, et c'est là où j'aimerais en venir ce matin avec vous, c'est que je sais que plusieurs d'entre vous ont aussi expérimenté cela. Peut-être que certains n'ont pas encore expérimenté ce baptême dans l'Esprit, et je vous encourage à le rechercher, à le demander, même si je n'insisterai pas trop sur ce point ce matin. Mais alors, cette question est un peu venue sur mon cœur. Pour nous ce matin, pourquoi alors Pierre a dû être encore rempli du Saint-Esprit? Pourquoi alors Pierre, Jean et les disciples, tout à nouveau, et c'est peu de temps après, ont tout à nouveau vécu cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit? Je crois que c'est quelque chose que nous devons comprendre pour pouvoir avancer dans nos vies. Parce que si nous nous arrêtons à une expérience que nous avons faite, peut-être la conversion, le fait que le Saint-Esprit nous ait convaincus de péché, de jugement et de justice, et que nous n'allons pas plus loin, nous perdons quelque chose. Vous connaissez il y a un proverbe qui dit que le bien est l'ennemi du mieux. Et c'est un peu cela. Après, peut-être que nous avons vécu à un moment de notre vie cette expérience bénie du baptême dans l'Esprit, où il y a un moment précis, certains l'ont noté, j'ai été baptisé du Saint-Esprit tel jour à telle heure, précisément. Et c'est vrai que c'est une expérience marquante, quand la présence de Dieu nous remplit, quand vraiment on se sent rempli de la présence de Dieu, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vraiment quelque chose de béni. Et le Seigneur veut faire cela dans nos vies, encore actuellement. Si tu ne l'es pas, le Seigneur Jésus veut te remplir de sa présence. Mais peut-être que tu t'es arrêté là. Et tu peux dire, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 20 ans, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et la pensée que j'ai eue ce matin pour chacun d'entre nous, c'est que cela ne suffit pas. On ne peut pas s'arrêter à une date précise de quand l'Esprit nous a remplis. Le Saint-Esprit, si on regarde certaines traductions et qu'on regarde un peu dans le détail, il nous est dit qu'il faut être continuellement rempli du Saint-Esprit. Il nous faut être continuellement rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas se dire qu'on a été rempli du Saint-Esprit à telle date, à telle heure, à tel endroit, et que c'est bon pour toute notre vie. Parce qu'on, si on pense cela, on se trompe. Mes enfants ont regardé un petit dessin animé chrétien samedi matin, et à la suite de ce dessin animé, il y a une explication qui a eu lieu sur justement le Saint-Esprit, et je me suis dit, comment ils vont pouvoir parler du Saint-Esprit aux enfants? Et ils ont donné cette image que j'ai trouvée excellente. Ils ont pris l'image du soleil et de la lune. Et dire que la lune, en elle-même, elle ne peut pas briller. La lune brille parce qu'elle réfléchit la lumière du soleil. Et c'est un peu ce que le Saint-Esprit doit faire en nous. Si la lune ne s'expose plus au soleil, elle ne brille plus. Si nous ne nous exposons plus au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut plus briller en nous. Et la gloire de Dieu ne peut plus briller au travers de nous. Parce que le but de tout cela, c'est quoi? C'est pas que je puisse me dire, ça y est, je suis rempli du Saint-Esprit. Ça y est, je l'ai eu mon baptême. Depuis le jour que je priais pour être rempli du Saint-Esprit, ça y est, je suis rempli du Saint-Esprit. Le but, c'est pas que nous puissions trouver une satisfaction. Le but, c'est que le Seigneur puisse se servir de nous. Le but, c'est que nous puissions être équipés pour aller faire ce que le Seigneur Jésus nous demande de faire. Vous voyez ce que Pierre et Jean et ses disciples ont demandé? Est-ce qu'ils ont demandé, Seigneur, permets qu'on ne soit plus persécutés? Permets qu'on n'ait plus de problèmes? Non. Ils ont été là, ils se sont tenus devant la présence de Dieu, ils ont dit, tu vois, Seigneur, l'opposition. Tu vois, il y a tous ces hommes-là, tous ces scribes, tous ces pharisiens, ils sont tous contre nous, Seigneur. Alors il est dit, maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Ça, c'est toi qui t'en occupes. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Quand on est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous. Quand on est rempli de la présence de Dieu, ce n'est pas pour nous. Bien sûr que nous sommes au bénéfice. Bien sûr que nous sommes aux bénéficiaires de cette grâce parce qu'il y a tout ce bienfait d'être rempli de la présence de Dieu. Mais si Dieu nous remplit, c'est pour que nous puissions déverser. Si Dieu nous remplit, c'est pour que nous puissions donner. Si Dieu nous remplit, c'est pour que nous puissions bénir les autres. Quand nous voyons ces disciples-là, déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Quand ils font ces miracles-là, les disciples, quand ils prient pour que des malades soient guéris, c'est qui est le plus béni? Celui qui prie ou celui qui est guéri? Quel est le plus bénéficiaire dans l'histoire? Celui qui avait une jambe coupée et qui voit sa jambe repoussée? Celui qui était dans le péché et qui est libéré? Celui qui était opprimé et qui est délivré? Le Saint-Esprit, nous sommes bénéficiaires du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'est pas pour nous. Le Saint-Esprit est cette action que Dieu veut faire au travers de nous, pour les autres. Nous l'avons chanté, nous l'avons vu au travers de la Sainte-Seine, Dieu est amour. Jésus s'est donné pour nous. Et nous devons suivre son exemple, nous devons nous donner pour les autres. Et pour pouvoir avancer avec lui, le Seigneur nous a donné ce Saint-Esprit, nous a mis à notre disposition le Saint-Esprit. Bien sûr, le Saint-Esprit ne nous est pas soumis. Et ça, c'est une autre étape dans laquelle je voudrais avancer avec vous. C'est que être rempli du Saint-Esprit demande quelques conditions. J'ai envie de le dire comme ça. Déjà, il demande de le vouloir. Est-ce que tu veux être rempli du Saint-Esprit ? Le Seigneur ne va pas nous donner quelque chose que nous ne désirons pas. Alors, je te pose la question ce matin, je me permets de te tutoyer. Veux-tu être rempli du Saint-Esprit ? As-tu ce désir au fond de toi d'être vraiment rempli du Saint-Esprit ? Il y a cette première étape, en exprimer le besoin. Et puis il y a aussi comprendre que nous en avons besoin, la nécessité. Il y a le désir, et puis il y a comprendre que nous en avons besoin pour avancer et pour accomplir l'œuvre que Jésus veut qu'on fasse. La nécessité parce que le Saint-Esprit est celui qui nous guide et qui nous dirige. Le Saint-Esprit est celui qui nous révèle les choses. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans la vérité. Mais s'il est celui qui nous conduit, il faut accepter d'être conduit. Être accepté d'être conduit. Je vais vous citer quelques versets que j'ai notés. Ne les cherchez pas. Ne les cherchez pas. Pour nous montrer que quand on accepte d'être rempli, on accepte d'être dirigé par l'Esprit. Marc 1, verset 12. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. J'insiste. Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Luc aussi. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On continue. Acte 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche. Acte 10, verset 19. L'Esprit lui dit. Acte 13, verset 2. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Acte 13, verset 4, envoyé par le Saint-Esprit. Acte 16, versets 6 et 7, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Mais l'Esprit ne leur permit pas. On voit que le Saint-Esprit dirige. Des fois, il dit oui, des fois, il dit non. Des fois, il nous amène à un endroit, des fois, il nous amène à un autre. Acte 18, verset 5, il est dit juste cela, pressé par l'Esprit. On continue. Acte 20, verset 22. Ce verset est vraiment très intéressant. Et maintenant, c'est Paul qui parle. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les souffrances m'attendent. L'apôtre Paul avait reçu quelque chose de particulier. Ne vous inquiétez pas, l'Esprit ne nous demandera pas forcément à chacun d'accomplir ce que l'apôtre Paul a accompli. Mais c'est juste pour nous montrer. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit. Cette expression est forte. Lié par l'Esprit. L'apôtre Paul avait totalement abandonné sa vie à Christ. Il n'avait qu'un désir, c'était suivre Dieu et d'accomplir sa volonté. Et la présence de Dieu était telle dans sa vie qu'il le savait, il disait, lié par l'Esprit. Comme si il était là, les deux mains attachées, et que les deux mains, les deux pieds, il dit, écoute Seigneur, tu m'amènes là où tu veux. Moi, je ne résisterai pas. Le Saint-Esprit veut faire des choses extraordinaires au travers de nos vies. On le voit, on pourrait prendre tellement de textes dans la parole de Dieu qui nous parlent du Saint-Esprit. Je ne vais pas m'étaler sur tous les sujets qu'on pourrait prendre parce qu'il nous faudrait des jours entiers pour parler vraiment entièrement de tout le sujet du Saint-Esprit. Mais on voit combien le Saint-Esprit agit puissamment tout au long de la parole. Et on pourrait se dire, oui, mais bon... Pierre, Jean, ils avaient reçu quelque chose de particulier, ils avaient été mis à part, c'était les disciples de Jésus. Mais vous avez fait attention, il est dit, Pierre et Jean les retrouvèrent les leurs, tous ceux qui étaient avec eux, les autres disciples, leurs femmes, peut-être leurs enfants, tous ensemble ils se sont mis. Là on ne peut pas dire que certains avaient reçu, ils nous ont même pas dit qui vraiment il y avait. C'était chacun, tous ceux qui avaient cru dans Jésus-Christ. Et ils ont tous été remplis de l'Esprit. Mais ils avaient un désir, que le nom de Jésus soit proclamé. Ils avaient un désir d'être utiles entre les mains de Dieu. Ils avaient un désir, c'est que la vie de l'Esprit soit manifestée à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Ils avaient un désir, c'est que les opprimés soient libérés. Que les pécheurs soient sauvés. Alors ce matin, je nous pose la question, et vraiment je nous la pose, tous ensemble. Que désirons-nous? Est-ce qu'on désire la vie de l'Esprit? Est-ce qu'on désire avancer? Bien sûr, ce n'est pas simple. Bien sûr, il y aura des obstacles, des difficultés. Mais que désirons-nous? Quel est notre désir profond? Quelle est notre aspiration, notre souhait? Est-ce que nous désirons voir la vie de l'Esprit agir dans nos vies? Est-ce que nous désirons voir ceux qui sont autour de nous sauvés? Ou sommes-nous habitués à ce que les choses soient ainsi? Il nous est dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon Esprit. Et... sans faire trop allusion à l'actualité, je crois que les derniers jours approchent. Alors désirons-nous vraiment cette présence de l'Esprit? Est-ce que nous désirons que le Seigneur Jésus vienne transformer nos vies? On pourrait, j'avais prévu de prendre deux symboles que le Saint-Esprit qu'on donne au Saint-Esprit. On associe souvent le Saint-Esprit au feu. Le feu, c'est ce qui, dans la parole de Dieu, quand souvent ce qui est associé au feu, c'est ce qui est purifié. Cette sanctification, cette purification. Le Saint-Esprit fait cette œuvre en nous de purification. Ne vous inquiétez pas, les choses se font au fur et à mesure. Il ne nous est pas dit qu'il fallait être parfait pour recevoir le Saint-Esprit. Mais il faut avoir un cœur ouvert, un cœur disposé. Et le Saint-Esprit va rentrer dans nos vies et va commencer à purifier tout ce qu'il y a à purifier. Il va commencer à te montrer ce qu'il faut que tu arrêtes. Il va commencer à te dire peut-être, ne va pas dans cette voie. Moi, j'aimerais que tu ailles dans cette voie-là. Parce que pour toi, ça sera mieux. Et tu verras qu'avec moi, tu pourras faire certaines choses. Mais il faut que tu acceptes de changer peut-être certaines choses dans ta vie. Il y a une deuxième symbolique, c'est celui du vent. Et on le voit la première fois où il y a eu cette effusion du Saint-Esprit, il nous a dit comme un vent impétueux et ces langues de feu, il y a ces deux symboles qui apparaissent. Et le vent a plusieurs symboliques, mais quand on parle du vent, il y a cette puissance qui est associée souvent. Le vent peut faire des dégâts terribles, on le voit quand il y a des tornades, quand il y a des tempêtes, le vent, rien ne peut arrêter le vent. Rien ne peut arrêter le vent. Et puis il y a autre chose, une notion un peu particulière, c'est que le vent, on ne sait d'où il vient et on ne sait où il va. Et le Saint-Esprit, on ne sait pas toujours comment il agit. On ne comprend pas toujours avec notre intelligence la façon dont le Saint-Esprit veut conduire les choses ou veut amener les choses. Nous, on fait des programmes, nous, on se dit « oui, si on fait ça, ça marchera comme ci, comme ça ». Et l'Éternel n'est pas contre ça. Il nous a donné de l'intelligence, ce n'est pas pour rien. Mais des fois, le Saint-Esprit va utiliser des moyens et des méthodes qui peuvent nous surprendre. Mais le Seigneur Jésus veut agir en nous. Il veut vraiment agir en nous. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions retenir ce matin. Je ne vais pas être beaucoup plus long que ça. Juste un dernier verset pour nous montrer que vraiment le Saint-Esprit conduit les choses. C'est dans Ézéchiel, au chapitre 1 et au verset 12, Ézéchiel a une vision un peu extraordinaire de certaines choses qui se passent dans le ciel. Et quand il a ses visions, dans ses visions, il nous est parlé des roues et de ces créatures un peu surnaturelles. Et il nous est dit, chacun allait droit devant lui. Et ils allaient là où l'esprit allait. Il se déplaçait sans dévier. Pour montrer combien l'Éternel les dirigeait. Et que cela soit vraiment la même chose dans nos vies. Le Saint-Esprit veut vraiment nous conduire. Et il désire nous remplir parce que nous avons tellement à recevoir de sa présence. Nous avons tellement à recevoir de lui. Et il veut vraiment nous diriger. Alors, frères et sœurs, acceptons cela. Acceptons cela. Acceptons que le Seigneur Jésus puisse venir dans nos vies. Acceptons que le Seigneur Jésus, nous puissions lui donner nos vies, totalement, afin qu'il puisse nous amener là où il veut lui nous amener. Même si ce n'est pas nos plans, même si ce n'est pas nos projets, même si ça nous demande peut-être abandonner certaines choses, peut-être même un certain confort. Mais je crois que nous avons beaucoup plus à gagner en abandonnant certaines choses de nos vies d'ici-bas. Et en étant rempli de l'Esprit, en étant rempli de sa vie. Alors voilà, je voulais vraiment vous encourager à cela, frères et sœurs. J'aimerais passer un petit temps dans la prière. Et j'aimerais prier. J'aimerais prier pour que vraiment l'Esprit puisse descendre ce matin dans nos vies. J'aimerais prier pour que le Seigneur nous fasse comprendre ce besoin que nous avons d'être remplis de lui. Frères et sœurs, que vraiment nous puissions réaliser cette grâce que nous avons, que le Seigneur Jésus nous ait donné ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu avec nous. Le Saint-Esprit, c'est avoir Dieu dans nos vies. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, je te remercie, mon Dieu, pour ta parole. Je te remercie pour tout ce que tu nous as laissé dans ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité parce que ta parole nous donne la vie, nous communique la vie. Et merci Seigneur parce que c'est vrai, dans ta grâce, tu ne t'as pas contenté de nous sauver, mais tu nous as donné le moyen d'être utile entre tes mains. Et tu désires que nous soyons remplis de ton esprit. Alors ce matin, Père éternel, je te prie pour notre assemblée. Je te prie pour nous, Jésus, pour que nous puissions vraiment être remplis de l'Esprit. Pour que dans nos vies, mon Dieu, mon Roi, nous puissions voir la différence de quand tu es là et quand tu n'es pas avec nous. Que nous puissions vraiment, Seigneur Dieu, réaliser et saisir que tu veux nous utiliser pour la gloire de ton nom. Et que ce n'est pas par nos propres forces, que ce n'est pas par nos propres capacités que nous pourrons faire cela, mais c'est parce que nous serons remplis du Saint-Esprit, parce que nous serons remplis de toi. Ah Seigneur, je te bénis, Père, pour le Dieu merveilleux que tu es.